Radio Prague, les informations.
Trois régions connaissent la composition des nouveaux conseils régionaux après les récentes élections. Les prix de médicaments baissent à partir du 1er novembre. Au mois d'octobre, le nombre de victimes des accidents de la route était le plus bas de ces cinq dernières années. Deux semaines après les élections régionales, trois seulement des 13 régions où les élections ont eu lieu, savent quelle sera la composition des nouveaux conseils. Dans la région de Vysočina, un gouvernement minoritaire du Parti social-démocrate avec le soutien des communistes sera formé. Dans la région de Hradec Králové, ce sera une coalition centre-gauche et dans la région de Liberec, un consensus a été trouvé entre la social-démocratie et le mouvement des maires et le Parti pour une société ouverte. Les négociations s'annoncent les plus difficiles dans la région de Bohême centrale, où le vainqueur des élections dans les 13 régions, la social-démocratie, insiste sur la formation d'un conseil unicolore minoritaire. Le prix d'environ 1500 médicaments est revu à la baisse. À partir du 1er novembre, une nouvelle baisse est prévue d'ici à la fin de l'année pour un nombre identique de médicaments. Selon le porte-parole de l'Ordre des pharmaciens, Aleš Krebs, il s'agit notamment de médicaments anticancéreux où les économies des patients sont évaluées à 2 milliards de couronnes et de médicaments contre la douleur. La santé publique tchèque fait face à une pénurie d'infirmières qualifiées, raison pour laquelle le ministre de la Santé, Tomáš Julínek, et la présidente de l'association des infirmières, Dana Jurásková, se sont rencontrés pour discuter des mesures à prendre. Ainsi, il a été convenu que le prix du travail des infirmières qualifiées doit augmenter, qu'il faut renforcer leurs compétences et modifier le système de formation. 67 personnes sont mortes sur les routes tchèques au mois d'octobre, soit un nombre le plus bas de ces cinq dernières années. Plus le mois d'octobre 2008 pour être, selon les premières statistiques de la police, le mois le plus sûr sur les routes tchèques depuis 1990. Par rapport au mois d'octobre 2007, les accidents de la route ont fait de 20 victimes de moins. Le nombre de collisions a également baissé. Une nouvelle campagne pour la sécurité routière a été lancée le 1er octobre par le ministère des Transports, une campagne basée sur la dissuasion brutale qui a pour objectif justement de diminuer le nombre de victimes d'accidents sur les routes tchèques. Un événement s'inscrivant dans le cadre de la saison française en opéra baroque en version concert, Les Indes Galantes, a été donné samedi soir au Théâtre National de Prague par l'ensemble vocal et instrumental Les Arts Florissants. C'est pour la première fois que l'œuvre scénique la plus connue de Jean-Philippe Rameau retentit sur une scène tchèque. En temps brumeux, des précipitations locales et des températures situées entre 12 et 16 degrés marqueront la météo de dimanche, jour des défunts, selon le calendrier tchèque. C'était les informations de Radio Prague présentées par Jarka Gisublova.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Que peut bien faire un Tchèque en Alsace ? Demande un des personnages de la nouvelle intitulée « La cathédrale de Strasbourg ». La vie de son auteur Jiří Weil a été cruellement marquée par les régimes totalitaires du XXe siècle. Déjà dans les années 1930, ce communiste convaincu connaît pendant son séjour en Union soviétique la prison stalinienne et n'échappe au goulag que grâce à l'intervention des communistes tchèques. Échappant aux caribdes staliniens, il tombe dans la gueule de style nazi. D'origine juive, il ne survit à la Deuxième Guerre mondiale que parce qu'il décide de disparaître, de passer à la clandestinité. Jiří Weil laissera à la postérité plusieurs romans, un recueil de nouvelles qui, sans être tout à fait autobiographique, reflète les déboires amers de sa vie. Sa nouvelle, la cathédrale de Strasbourg, dans laquelle il raconte sa vie en Alsace, a tellement intrigué Alena Wagnerova, pédagogue, dramaturge et écrivain tchèque, qu'elle s'est lancée sur les traces du périple alsacien de Jiří Weil et racontait ensuite cette aventure dans un texte intitulé « Que peut bien faire un tchèque en Alsace ?». Les deux textes réunis dans un livre ont été traduits en français par la journaliste de Radio Prague, Anna Kubišta, qui a bien voulu nous les présenter. Tâchons donc d'abord de résumer, si possible, les nouvelles de Jiří Weil et d'Alena Wagnerova.
Alors, en 1938, l'écrivain Jiří Weil, qui est aussi l'auteur de deux ouvrages connus, Vivre avec une étoile et Mendelssohn est sur le toit, qui sont parus en France d'ailleurs, et son compagnon de voyage se rendent en Alsace, et Weil raconte en fait leur périple, d'abord à Strasbourg, où ils admirent la cathédrale, ils déjeunent, puis ils partent en direction de Ribeauvillé. En fait, Ribeauvillé, c'est une petite ville qui se trouve au pied des Vosges, à quelques kilomètres de Colmar, et ils sont en fait à la recherche d'un sculpteur baroque tchèque qui aurait laissé des statues, donc sculpté des statues qui se trouveraient dans le parc d'un château dans cette petite ville de Ribeauvillé. Voilà, qui visiblement, donc d'après ce que raconte Weil, serait également le siège de diaconesse allemande qui s'y trouverait. Et Weil et son compagnon donc s'y rendent, découvrent en effet ces statues dans ce parc. Et Weil raconte notamment comme ils se font assez mal voir par les Alsaciens du cru, parce qu'ils sont véhiculés par un certain Monsieur Prusse, qui a un nom quand même très évocateur, même s'il écrit à l'allemande, mais enfin ça fait penser à la Prusse, qui est visiblement à l'époque, en 1938, pro-nazi. Et puis parce qu'ils se rendent aussi donc dans ce parc des diaconesses, qui sont réputés visiblement pour leur pan-germanisme et leurs inclinations plutôt hitlériennes. Et en fait, tout s'arrange à la fin de la nouvelle lorsqu'ils discutent avec le maire autour d'un bon verre de vin et autour, je sais plus si c'est autour d'une choucroute, je suis plus sûre, mais où ils discutent et en fait, ils se rendent compte que finalement, les Tchèques et les Alsaciens sont assez proches. Et puis, la nouvelle d'Alena Wagnerova, en fait, c'est 66 ans plus tard, sur les traces de Weil et de Josef Brosch, donc ce sculpteur baroque. Mais ça, je pense qu'elle peut en parler elle-même plus précisément.
En quoi réside donc l'intérêt de ces nouvelles? Pourquoi tu as décidé de les traduire?
Alors l'intérêt de ces nouvelles, c'est notamment parce que il pose le problème de ces régions frontières, hein, donc l'Alsace pour le coup, mais aussi le problème des Sudètes. C'est comme l'explique en effet Madame Wagnerova dans sa nouvelle. En fait, Weil, Jiří Weil se sert du cas alsacien pour évoquer celui des Sudètes en 1938. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, quand il écrit, on est à la veille de la guerre, Hitler est aux portes de la Tchécoslovaquie, les Allemands des Sudètes s'agitent et menacent l'intégrité du pays. Ça, c'est un aspect, voilà. Et puis pour moi, bon, l'intérêt était très personnel, puisque tu me poses la question. C'était un aspect plus intime, j'allais dire. Quand Alena Wagnerova, à l'époque, m'a parlé de ses nouvelles, en fait, j'ai tout de suite eu envie de les traduire. Donc je suis franco-tchèque, j'ai grandi en Alsace sans être alsacienne, mais en fait j'ai découvert assez tardivement que j'aimais beaucoup cette région et cette terre, comme j'aime les pays tchèques, et on pourra en reparler plus tard, mais pour moi ces deux terres ont beaucoup en commun, en fait.
Jiří Weil a comparé dans sa nouvelle Alsace à la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'une telle comparaison est possible?
Dans une certaine mesure, oui, je pense. L'argumentation de Weil, au fond, comme en tout cas le décrypte Alena Wagnerova dans sa nouvelle, c'est que Weil aurait aimé qu'il y ait des Allemands des Sudètes à l'époque, comme l'étaient les Alsaciens, en fait, qui, en parlant allemand et en étant critiques vis-à-vis du gouvernement tchèque central, se seraient quand même identifiés à l'État tchécoslovaque. Et pour lui, en fait, l'exemple alsacien lui semblait un modèle dont il faudrait s'inspirer. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance, en général, à comparer tchèque et alsacien. Voilà, c'est ma version à moi.
Maintenant, donc, les deux nouvelles font partie d'un seul livre, un livre que tu as déjà présenté en Alsace. Comment le livre a été accueilli par les Alsaciens?
Alors, il y a eu une première lecture, mi-octobre, justement, à Ribeauvillé même, donc au cœur des nouvelles. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui étaient présentes. Je pense que le livre a été plutôt bien accueilli. Il y a eu quelques précisions, d'ailleurs, qui ont été faites par les gens, par les locaux. Il y a même une archiviste qui est venue, qui sachant qu'il y avait cette lecture, avait préparé des documents. Et il y avait des documents, en fait, qui établissaient historiquement la présence de Josef Brosch, donc ce sculpteur baroque tchèque, en Alsace, à Ribeauvillé. D'ailleurs, il s'est installé là-bas, hein, il s'est marié, il y a vécu toute sa vie, il y est mort. Et d'ailleurs, ses enfants, plus tard, ont été sculpteurs sous le nom de Broche, mais francisé, Broche, qu'on retrouve à Paris. Et puis voilà, puis il y aura une prochaine lecture, en fait, le 8 novembre, à Schiltigheim, près de Strasbourg, dans la salle du Cheval Blanc. Voilà, pour ceux qui aimeraient venir.
Jerzy Weil a décrit dans sa nouvelle quelques personnages, il les a décrits avec beaucoup d'humour. Est-ce que les Alsaciens se sont identifiés avec le portrait de leur compatriote que Jerzy Weil a brossé dans sa nouvelle?
Je ne saurais pas dire exactement. C'est vrai que les gens ont beaucoup ri, en fait, quand Jerzy Weil décrit les Alsaciens, décrit un peu leur caractère, etc. Bon, ça, c'est pas Jerzy Weil qui le dit, mais je pense que ça transparaît quand même pas mal dans sa nouvelle. Et Alena Wagnerova le présente également, ce caractère des Alsaciens par l'intermédiaire d'une citation donc de son voisin alsacien. Qui dit que les Alsaciens, enfin, s'adaptent toujours. Finalement, quand c'est les Français qui les gouvernent, ils parlent français. Quand c'est les Allemands qui les gouvernent, ils parlent allemand. Si c'était les Russes qui les gouvernaient, ben, ils parleraient russe. Mais au fond, ce qui reste, c'est alsacien. Et je pense que ça, Weil l'a très bien quand même compris à l'époque. Ça, c'est sûr, quoi.
Tu as ajouté au livre une petite postface où tu insistes sur les ressemblances entre les Tchèques et les Alsaciens. Qu'est-ce que nous avons en commun avec les Alsaciens?
Les liens entre l'Alsace et la Bohème, bon, ça, c'est un peu mon petit dada personnel et un peu obsessionnel. Moi, je cherche un peu tout ce qui les rassemble, tout ce qui les lie. Alors, il y a des goûts communs, hein, par exemple, tout bêtement la bière, le vin blanc, la choucroute, hein, faite de manière différente. Mais quand même, il y a le chou qui est là, le porc, la viande de porc. Et puis après, bon, il y a aussi tous les côtés historiques. Pour moi, ce qui est très important, en tout cas, sur ces liens Alsace-Bohème, c'est que ce sont toutes deux des terres que j'appelle prises en sandwich. D'une part parce qu'il n'y a pas la mer, donc finalement il n'y a pas d'ouverture vers le large, vers l'horizon, etc. Ensuite, prise en sandwich historiquement, puisqu'elles ont toutes les deux en commun d'avoir été plusieurs fois un peu, j'allais dire, placées, enfin voilà, sous le joug allemand, si on veut, en tout cas sous l'influence allemande, qui pouvait être positive ou négative. Et puis après, il y a une histoire commune, tout simplement, par exemple, Charles IV, donc l'empereur de Bohème, qui a fondé la décapole alsacienne, qui collectait des reliques, qui a ramené énormément de reliques de la sainte patronne alsacienne, sainte Odile à Prague. Et puis les Tchèques, hein, en 1870, ont été les seuls à protester au sein de l'Empire austro-hongrois contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, à l'Empire allemand. Et de même, il existe une plaque que moi j'ai beaucoup vue quand j'étais justement quand j'étudiais l'histoire au Palais universitaire à Strasbourg. Il existe une plaque en fait qui est en fait une plaque où les étudiants tchèques également ont manifesté leur soutien aux étudiants alsaciens en 1872, puisque visiblement déjà à l'époque ils se reconnaissaient une sorte d'affinité élective avec les Alsaciens, une espèce de destin commun finalement de petits pays toujours ballottés entre les frontières.
C'était donc un entretien avec la traductrice des nouvelles de Jerzy Weil et d'Alena Wagnerova, Anna Kubišta. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Aleš Krupka, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Tu ou vous, ou quand tutoyez et quand vous voyez? Voilà une question que nous nous posons plus ou moins régulièrement, pour peu que nous ne soyons pas, par exemple, anglophones. Les Tchèques, comme les francophones, y sont souvent confrontés dans diverses situations de leur vie quotidienne, selon les interlocuteurs auxquels ils s'adressent. Et il convient parfois de ne pas se tromper, sous peine de commettre un faux pas, certes plus ou moins grave selon les circonstances, ou de faire preuve d'un manque de savoir-vivre. Car dans les deux langues et les modes de communication en usage, en tchèque comme en français, l'emploi du pronom « tu » ou « vous » et de la forme verbale qui s'ensuit représente parfois un monde de différence dans les relations interpersonnelles. Alors, dans quelle situation les Tchèques tutoient-ils? Et inversement, quand vous voient-ils? Telles sont les questions auxquelles nous allons pour cette fois Tâchez de répondre. Mis à part notamment l'anglais courant, qui n'emploie plus aujourd'hui qu'un seul pronom de deuxième personne, au singulier comme au pluriel, le pronom « you », qui n'est ni neutre ni poli, la distinction entre le tutoiement et le vouvoiement est une notion qui existe dans la majorité des langues indo-européennes. Langue slave, le tchèque fait partie de celle-ci. En tant que telle, elle ne fait donc pas exception à la règle et possède, elle aussi, cet usage linguistique. On parle de
« tekání »
pour le tutoiement et de
« Bécagne.
Pour le vouvoiement. Alors disons tout de suite les choses clairement. Pour un Français qui apprend la langue tchèque et ses usages, cette distinction n'est pas très compliquée puisqu'elle ressemble très fort à ce que l'on connaît déjà. Comme en France, le vouvoiement marque pour les Tchèques l'expression d'une certaine forme à la fois de respect, de politesse et même de retenue. Le plus généralement, les Tchèques vouvoient une personne qu'ils ne connaissent pas et rencontrent pour la première fois. Une personne plus âgée qu'eux, à moins qu'il s'agisse d'un membre de leur famille ou d'un cercle d'amis que nous qualifierons d'intime, ou encore un supérieur hiérarchique. On pense dans ce cas précis, par exemple, à la relation d'un élève ou d'un étudiant avec son professeur. À ce propos, et inversement, on peut considérer que l'usage du vouvoiement d'un élève par son professeur, usage qui se passe en République tchèque quelques années avant le début des études supérieures, marque le passage, en quelque sorte, du statut d'enfant à celui d'adulte. De l'étudiant moins que rien, on devient en quelque sorte, ou au moins en a-t-on l'impression, un être respecté à défaut d'être encore une personnalité. Toutefois, cet emploi du « vous » à l'égard d'un jeune, ou plus précisément d'une personne qui se considère encore en tant que telle, est parfois désagréable pour ce dernier. En effet, s'entendre dire
« Dobrý den, pane. »
« Bonjour, monsieur » et être « vouvoyé » lorsque l'on était jusque-là plutôt habitué à s'entendre dire
« Ahoy, nazdar »
ou
« Ciao ».
Bref, « salut » à être tutoyé et à être appelé par son prénom peut s'avérer être un cap difficile à passer. Même si ce vouvoiement exprime une différence de hiérarchie et par conséquent une forme de progression sociale, on ne peut alors s'empêcher de penser que l'on a probablement pris un petit coup de vieux dans les yeux de la génération des jeunes d'une vingtaine d'années, ces teenagers auxquels on appartenait encore il y a peu et desquels on pensait encore tant bien que mal faire partie. En un mot, et pour bien d'autres raisons encore, il n'est pas toujours agréable d'être vouvoyé. Comme ailleurs, la règle veut que les Tchèques tutoient les personnes avec lesquelles elles entretiennent un lien affectif, essentiellement la famille et les amis. Toutefois, l'emploi du « tu » peut servir à abaisser son interlocuteur. Il peut aussi s'agir d'une manière d'injurier. Dans ces cas-là, toute dignité disparaît. Voilà peut-être pourquoi certaines personnes sont très sensibles et n'apprécient que fort peu d'être tutoyées par un inconnu au premier contact. Inversement, il en est d'autres, que cela ne gêne nullement. Il peut s'agir là de l'expression d'une forme de modestie, d'une volonté de placer tout le monde, y compris soi-même, sur un même pied d'égalité. En un mot, de se dire « on est tous égaux, camarades, quelle que soit ta fonction, ton statut social ». Si nous évoquons ce mot « camarade »,
soudro,
ce n'est pas par hasard. Dans la langue tchèque, le mot
« soudro »,
qui ne sert nullement à désigner un ami, comme on peut l'entendre avec « camarade » en français, possède en effet une place à part et une connotation spécifique. Sauf à évoquer l'histoire, son emploi a pratiquement disparu aujourd'hui, et pour cause, puisqu'il renvoie à un vocabulaire communiste.
Soudro
servait donc à interpeller un camarade, mais dans le sens de collègue ou de confrère communiste. Tout cela finalement pour dire que le tutoiement était beaucoup plus fréquent pour les Tchèques sous le communisme, et ce fort logiquement puisque l'idéologie réclamait de ne pas faire de différence entre les individus et de ne pas marquer de différence sociale et l'appartenance à une classe éventuellement plus élevée, notamment la fameuse classe dite bourgeoise, à laquelle il ne valait mieux pas appartenir. Toutefois, à ces quelques exceptions près, on retiendra donc qu'en tchèque, la distinction entre le tutoiement et le vouvoiement ne diffère guère de celle en usage dans la langue française, pour ne parler que de celle que nous connaissons le mieux. C'est sur ce constat, mesdames et messieurs,
dames et pánové,
que s'achève ce tchèque du bout de la langue, et en attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. La rubrique du courrier des auditeurs, c'est tout de suite sur Radio Prague. Mais j'avoue que nous sommes un peu déçus cette semaine. Très peu de courriers et de commentaires sont parvenus dans notre rédaction. Seuls des rapports d'écoute de quelques fidèles ont atterri dans la boîte aux lettres de la radio et quelques lettres seulement. Alors, chers auditeurs, est-ce le mauvais temps près de chez vous qui vous démotive? Pourtant, s'il fait mauvais, c'est bien une occasion de rester l'oreille collée au poste bien au chaud. J'espère que la semaine prochaine, les courriers seront plus abondants. Et Frédéric et Hervé Briand de Talence nous ont écrit. Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la rédaction française de Radio Prague. Le passage à l'heure d'hiver ce dimanche marque la mise en place de votre nouvelle grille de programmes et de quelques nouveautés décrites par Alain Slivinski dans le 73 de Radio Prague. En République tchèque, l'heure aussi semble aux économies avec l'annonce d'une nouvelle et unique brochure pour toutes les rédactions. Mais comme le dit si bien Alain, en contrepartie, nous pourrons découvrir ainsi toutes les autres rédactions. En somme, une bonne nouvelle et nous attendons de découvrir celle-ci avec impatience. Nouveaux horaires, nouvelles fréquences, je n'ai pu résister à tester l'écoute de votre première émission de 14h30 TU sur 11600 kHz et je ne le regrette pas. Signal puissant, absence de parasites, fading pratiquement nul, en deux mots, excellente réception. L'actualité de la semaine passée a été très riche mais inquiétante avec la crise financière mondiale, vos incertitudes politiques et les attaques contre la présidence de l'Union européenne au 1er janvier 2009. Nous souhaitons que l'actualité de cette nouvelle semaine soit plus souriante. Bonne semaine à tous et très sincères amitiés radiophoniques et tchécophiles. Jacques Augustin, notre fidèle auditeur de Rosny-sous-Bois, nous a écrit à la mi-octobre. L'automne, dans sa belle saison, est en pleine action, avec les arbres commençant à perdre leurs feuilles bien jaunes. C'est le paysage aperçu sur le chemin du travail, parcouru à pied. L'on pourrait croire à une forme de vie en déclin. Fort heureusement, les bonnes conditions de propagation sur ondes courtes relèvent le défi des ondes courtes et c'est avec enthousiasme que je suis assidûment vos programmes. Aussi, c'est avec plaisir que je vous adresse 10 rapports d'écoute qui, je l'espère, seront utiles pour toute votre équipe francophile et vos services techniques. Et s'ils se révèlent être corrects, je serai très heureux de recevoir 2 cartes QSL de Radio Prague comme vérification. Bien que trop brèves, les informations ouvrant chaque transmission, elles n'en demeurent pas moins une source de communication crédible pour l'Europe, la France. Ainsi ai-je appris grâce à Radio Prague que l'écrivain Milan Kundera aurait dénoncé un compatriote sous le communisme en 1950. Mais un arbre peut en cacher un autre et c'est avec plaisir ce 14 octobre que j'ai appris la rencontre entre Václav Havel et la secrétaire d'État français Ramayad. Je crois que l'ancien président tchèque a toujours su faire preuve d'humilité malgré ses souffrances durant le communisme. Cela m'amène à l'Europe, à vous demander si les parlementaires tchèques ont une intention réelle de ratifier le traité de Lisbonne avant la fin de l'année ou l'opposition prévaut-elle ? Eh bien, en effet, monsieur Jacques Augustin, pour l'heure, la République tchèque n'a pas encore ratifié le traité de Lisbonne, qui pour l'heure est examiné par le Conseil constitutionnel, lequel est censé déterminer si celui-ci est compatible avec la loi fondamentale du pays. Mais devant les craintes que suscite l'euroscepticisme affiché de la République tchèque, précisons tout de même que lors de la récente visite d'Angela Merkel à Prague, la chancelière allemande, le Premier ministre tchèque, Mirek Topolánek, a promis une ratification avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant le début de la présidence tchèque de l'Union européenne. Voilà ce que l'on peut dire sur le traité de Lisbonne. D'ailleurs, Jacques Augustin n'est pas le seul à s'intéresser à ce sujet. Monsieur Jamais pose également la question de la présidence tchèque, de sa préparation, de l'intérêt des Tchèques et de la couverture de cette présidence par Radio Prague. À Monsieur Jamais, je rappellerai le lancement d'une campagne sur la future présidence tchèque qui a suscité pas mal de commentaires. Je vous renvoie à l'article d'Alexis Rosenzweig du 4 septembre qui évoque le slogan ambivalent qui a été choisi. Evropě to osladíme peut en effet signifier nous allons adoucir ou sucrer les choses pour l'Europe, mais cela peut surtout signifier exactement le contraire, quelque chose comme nous allons en faire baver à l'Europe. Un slogan qui aujourd'hui ne manque pas de piquant si on considère les récentes déclarations du président français sur une possible prolongation de la présidence française dans le cadre de l'eurozone uniquement. Bien entendu, toutes les déclarations officielles ont vu des réactions côté français promptes à se défendre de vouloir amputer la présidence tchèque.
I don't understand.
There are a lot of things we don't understand. I don't understand.
We need answers from you.
What did you expect to find?
What did you expect to
find? What's going to be our future?
It's your responsibility to do something about it.
Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock.
Pour finir, merci à Michel Arly de Barbazan, Philippe Marsan de Gujan-Mestas, Daniel Thielin de Saint-Germain-sur-Meuse pour leur rapport d'écoute. C'est avec le courrier des auditeurs que se terminent les émissions en langue française de Radio Prague. Retrouvez toutes nos émissions sur le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz,